Propos sur le bonheur, l'émission qui met le bonheur au centre de ses priorités. Ici Nicolas Lehoux, en compagnie de Robert Rivard.
Bonjour.
Et de Hajar El-Mouden.
Bonjour.
Nous sommes à Montréal, dans les studios de Radio Centre-Ville. Et notre thème aujourd'hui sera « Savoir rire de soi ». C'est très important. Il y a beaucoup de gens très sérieux aujourd'hui là, qui avec leurs médailles et puis leur position très élevée, se prennent au sérieux. Mais si on mettait tous les juges, les premiers ministres, les hommes d'église tout nus, on s'apercevrait que bien souvent, ils sont vraiment des gens ridicules et qui sont laids. Mais souvent, on est caché derrière des vêtements, on se cache derrière une prestance. Mais ça, si on sait rire de soi, on peut vivre mieux, à mon avis. On peut être plus relax et plus heureux.
Bien, rire de soi, c'est certain. Se prendre au sérieux, si on regarde les politiciens, ils ont tendance à se prendre au sérieux, les politiciens. Ils sont pas des gens qu'on va regarder pour leur sens de l'humour. Donc, c'est des gens qui se prennent au sérieux et ils s'accordent donc une importance personnelle qui va au contraire de qu'est-ce qui se passe vraiment. Pour moi, tout ça, c'est un mythe. Ça s'appelle, dans une phrase courte, ça serait le mythe de l'autorité. Et donc, ces gens-là sont vraiment des pantins. C'est un numéro de magie, si on veut, là, qu'on regarde. Et les comédiens, bien sûr, ont tendance à vouloir faire d'eux leur cible et avec raison. Mais ça n'enlève pas malheureusement l'aspect négatif là, de ça. Mais si on revient à soi-même, rire de soi, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, particulièrement si on est dans notre carrière ou dans nos activités, si on se place devant le public ou devant les gens. Faut vraiment avoir un sens de rire de soi parce qu'on va faire gaffe, peu importe, c'est une question de temps. On va toujours faire des gafouilles éventuellement. Et donc, faut avoir un sens flexible et reconnaître et faire peut-être la distinction entre qu'est-ce qui est notre soi réel, éternel et divin versus notre encapsulation poreuse, notre costume de chair qui véhicule cet être profond. Donc, dans ce sens-là, il faut faire attention, il faut faire c'est-à-dire la distinction entre la vie matérielle et ces choses, c'est un aspect comique. Et c'est préférable d'avoir un aspect comique, il faut rire dans la vie.
Ben justement, c'est essentiel. Et si on remarque, quand on est plus jeune, surtout qu'on est enfant, on a cette spontanéité, on est tout le temps en train de rire de soi-même. Et on dirait que dès qu'on rentre dans l'âge adulte, eh bien, on commence à perdre cette habilité, justement, à rire de soi-même. Et on se prend de plus en plus au sérieux. Et je pense que la plupart des fois, c'est à cause qu'on prend des responsabilités. Et pour moi, personnellement, je pense que être sérieux, c'est bien dans des situations, mais dans la plupart des situations, il faut aussi savoir avoir de l'humour. Et donc, c'est de savoir balancer entre les deux. Les gens qui se prennent trop au sérieux, on dirait qu'ils ont des bâtons dans les roues. Ça se voit qu'ils sont trop sérieux et qui... Les gens perçoivent que ces personnes-là sont comment dire en anglais ? Boring, c'est ça.
Ils sont pognés par en dedans.
Exactement. Et donc, quand on prend la vie avec un sens de l'humour, ben, la vie devient plus allégée, on devient plus spontané et on arrive à accomplir plein de choses que des gens sérieux n'arriveront jamais à atteindre, justement.
Et c'est vrai que savoir rire de soi, ça ne veut pas dire de ne pas se prendre au sérieux non plus. Je pense que ça prend un équilibre parce que si je veux avancer dans mes projets, si je veux accomplir des choses... Ça me prend un sérieux. Il faut que je me respecte. Il faut que je sois que je m'aime. Mais en même temps, faut pas non plus exagérer au point de perdre la carte. c'est très facile. Comme moi, j'ai une personnalité assez obsessive. Quand je commence un projet, je pense juste à ça. Et parfois, j'oublie de rire aussi. On me le reproche parfois. Mais en même temps, je me prends pas au sérieux de la manière où quelqu'un pourrait m'insulter. Je suis pas susceptible, ce que je veux dire. C'est, quelqu'un va me dire quelque chose. OK, ça va pas. Ça risque pas de me faire tomber à terre, alors que des gens sont tellement sensibles que tu vas leur dire quelque chose, puis tu viens de ruiner leur vie, là, ruiner leur journée. Tu vois, j'ai de la misère avec ça, des fois, parce que je dis la vérité. Souvent, je dis ce que je pense. Et puis, si ces gens-là savaient plus rire d'eux, ça serait peut-être plus facile d'interagir avec eux. Ils seraient moins crispés.
Je pense que ça revient encore à l'opinion ou notre sens de l'importance de soi. Et pour moi, c'est ça, c'est toujours la dualité entre ce qu'on fait comme être physique, à jouer et construire dans notre carré de sable nos rêves, nos projets, tout ça, et d'y accorder trop d'importance vis-à-vis l'éternel. Donc, il faut prendre ça un petit peu avec un grain de sel ou un grain de sable. Ha ha! Je viens de faire une farce. Ça me fait penser aussi à une autre affaire de ces temps-ci. Je porte une queue de cheval, j'ai mes cheveux sont longs. Et puis, ça fait longtemps que ça ne s'est pas arrivé, mais c'est déjà arrivé parce qu'il y avait un vieux monsieur qui m'adresse parce que j'avais le dos tourné à lui, puis il m'appelle madame, tu sais. Donc,
ouais, ça arrive.
Ça arrive.
Ça m'est arrivé la semaine passée, même. Moi et toi, on est allé prendre une bière. Et puis, pourtant, j'ai les cheveux courts. Je veux dire, j'avais mon gilet à manches courtes. Et la femme m'a dit, madame, qu'est-ce que vous allez prendre? Puis ça m'est arrivé très souvent. Peut-être que c'est mon énergie, je sais pas, une énergie créative féminine. Mais là, avant, j'avais les cheveux longs. Comme toi, ça m'arrivait souvent. Mais là,
ouais, moi, j'avais ça bizarre. Moi, j'ai une raison. Visuel. Mais,
ouais. J'en ai ri la semaine passée, j'ai fait une blague avec ça. Ouais.
Moi, j'ai compris, je ne peux pas en vouloir parce que le monsieur, tu sais, il est habitué à avoir cheveux longs, femme, tu sais, donc c'est pas lui dans sa culture, tout ça. Donc, mais il faut apprendre à rire de soi sans ça. La vie est trop terne, trop moche. Et puis, de toute façon, hein, ils disent, hein, rire, c'est une manière de rehausser ta santé. Hein. On dit que... en tout cas, j'ai entendu parler que le rire, ça remonte la santé.
Oui, au Québec, on a la rigolothérapie. Le rire au Québec est assez populaire. Les humoristes sont très populaires. Ouais. Et puis, fait, les Québécois, je pense que on a ça dans le sang parce qu'on est habitué de faire rire de nous autres par les Anglais, par tout le monde qui a passé par ici, finalement, qui a voulu nous assimiler. Je pense que les Québécois ont développé un sens de l'humour parce que c'était une manière de survivre à toutes ces épreuves, là, à l'Église qui prenait toute la place, au gouvernement qui était acheté par le Canada anglais, etc. Donc, les Québécois sont généralement des bons vivants qui aiment rire d'eux-mêmes. Donc, c'est dans notre culture. Je ne sais pas au Maroc comment ça peut être.
Oui, on rit beaucoup au Maroc. Hein. C'est rare qu'on trouve quelqu'un qui est juste sérieux. On ne se prend pas trop au sérieux. C'est vraiment une culture où il y a bon vivre et on adore rire, quoi. Voilà.
Et tu me disais que c'est cette semaine, tu avais ri de toi toute la semaine?
Bah, c'est une habitude que j'ai tout le temps. Moi, je suis tout le temps en train de rire parce que je pense que quand je suis trop sérieuse, on dirait que mon emploi de temps est tellement chargé que j'ai besoin de ce rire-là. Parce que justement, tantôt, on va en parler, le rire a des bénéfices justement pour la santé. Et je trouve que les journées où je ne ris pas, c'est des journées où je sens que mon cerveau, il est très, saturé en fait. Le rire, c'est une façon pour moi de libérer un petit peu de pression. Et justement, je t'en parlais, toute cette semaine, j'ai eu ce thème dans la tête où je commençais à penser, ah ben tiens, parce que mon père, au début de la semaine, m'a fait un commentaire, il a dit, bah toi, tu es tout le temps en train de rire. Alors je me suis dit toute la semaine, ah ben c'est vrai, je fais ça souvent. Et j'ai commencé à réfléchir là-dessus parce qu'avant, je le faisais, c'est pour moi, c'est très naturel, je me forçais pas à rire, je suis tout le temps joyeuse, de bonne humeur, comme vous le savez.
Oui.
Et donc, voilà, c'est quelque chose qui est très essentiel dans ma vie. Et pour les gens qui ne rient pas souvent, je vous conseille fortement de l'essayer, c'est le meilleur remède.
Ben d'ailleurs, j'ai une amie qui était très stressée, là, puis que ça commençait à endommager sa santé. Puis il y a quelqu'un de très sage qui lui a suggéré de prendre un break de 5 minutes à chaque heure pour rire. Je sais pas, aujourd'hui c'est facile, mais on peut aller sur YouTube, prendre des vidéos. On a tous notre humour particulier. Moi, j'aime certaines choses qui vont me faire rire absolument sur YouTube en particulier. Moi, je suis difficile à faire rire, donc j'ai un humour assez raffiné, on pourrait dire. Mais j'ai tendance à être très sérieux, donc c'est pour moi, savoir rire de soi, c'est quelque chose que je me rappelle souvent. C'est pas quelque chose de naturel dans le sens que savoir rire de moi, ça oui, je peux le faire, mais savoir rire toujours, faut que j'y travaille. Mais on va faire une pause musicale avec Aurel San, une chanson qui s'appelle Différent. Puis nous allons revenir après la pause avec ce thème, savoir rire de soi.
San, 25 ans, célibataire, rappeur, cracker, sous pression, amateur, de film amateur. Mon seul moyen d'expression, c'est de m'enfermer sur moi-même. Des fois je rappe, des fois je fais des sons, des fois une dépression. Je suis président de mon club d'échecs, perdant résident dans le cœur des schnecks. Bobby la défaite, alias Tony, je m'en bats les steaks. Rien ne m'arrête si je commence à teaser. Alors passe-moi le JV et fais tourner ton hépatite B. Je finirai par acheter ma femme en Malaisie. Les putes à bloc sont plus bonnes en photo que dans la vraie vie. Non, je suis pas un pro du marketing. Je suis sensible, je me sens sale après avoir été voir les filles. À quand la nuit, t'es sûr de te faire contrôler par les flics. J'essaye de tout mettre sur le dos de mon jumeau maléfique. Je voulais dédicacer mon sponsor à des filles. J'ai trop de lust dans mon nouveau survêt quand j'ai pointé aux ascétiques. Nous on s'en bat les couilles de ce que disent les gens. On vit pas dans le même monde, on est différents. Je suis resté beaucoup trop longtemps à cirer le banc. Si je rentre sur le terrain, c'est pour mettre une droite à mon coach. Nous on s'en bat les couilles de ce que disent les gens. On vit pas dans le même monde, on est différents. Je suis resté beaucoup trop longtemps à cirer le banc. Si je rentre sur le terrain, ça devient dangereux pour les deux.
Je veux pas d'une femme soumise ni d'une sale groupie. Par contre, j'échangerai mon bras gauche contre une nuit avec Katsumi. Là où je suis, on s'ennuie à mourir. Une bonne soirée, c'est une soirée dont j'ai aucun souvenir. Anti-héros. Je raconte mes aventures sur le net en vidéo. Je suis la version humaine de Calimero. Mes idéaux c'est prendre ma retraite après avoir percé. Passer le restant de mes jours à mater des films de karaté. Renseigne-toi sur les pansements, les poussettes. Je peux te faire un enfant ou te casser le nez sur un coup de tête. Poulette, pourquoi tu veux pas sortir avec moi? J'adore passer par les petits trous, j'adore me sentir à l'étroit. Avant je voulais construire ma vie avec mes beaux diplômes. Depuis j'ai vu être maille et j'ai t'habiter dans un mobilhome. Oh les mains, casseur flotteur c'est mon binôme. La crédibilité je m'en branche, tu peux pas tester Aurélien et Guillaume. Nous on s'en bat les couilles de ce que disent les gens. On vit pas dans le même monde, on est différents. Je suis resté beaucoup trop longtemps à cirer le banc. Si je rentre sur le terrain, c'est pour mettre une droite à mon coach. Nous on s'en bat les couilles de ce que disent les gens. On vit pas dans le même monde, on est différents. Je suis resté beaucoup trop longtemps à cirer le banc. Si je rentre sur le terrain, ça devient dangereux pour les deux camps. Avec mes chansons, ma meuf croit que je la trompe, elle a bien raison. Chérie, ce soir j'entrerai pas à la maison. Je vais aller voir mes potes. On refera le monde autour d'un film de boule. On critiquera les gens qu'on connaît pas dans les articles de groove. J'écris des lyrics de ouf, pas de la provoque gratuite. À la Starac en t-shirt avec une photo de ma bite. Mélange du coca et du sky dans tes chocs à pic. Je vais récupérer mes panini, je suis nostalgique. Je suis plus proche de la blague de cul que de l'art de rue. Je fais ça pour les thunes. Dans mon album y'aura des pages de pub. Je suis un mélange entre hardcore et farfelu. Aurel San, parce qu'on change pas une équipe qui fait match nul. Nous on s'en bat les couilles de ce que disent les gens. On vit pas dans le même monde, on est différents. Je suis resté beaucoup trop longtemps à cirer le banc. Si je rentre sur le terrain, c'est pour mettre une droite à mon coach. Nous on s'en bat les couilles de ce que disent les gens. On vit pas dans le même monde, on est différents. Je suis resté beaucoup trop longtemps à cirer le banc. Si je rentre sur le terrain, c'est pour mettre une droite à mon coach. Pour les gens de 7 à 77 ans.
De retour à propos sur le bonheur. Notre thème aujourd'hui est « Savoir rire de soi ». Je pense que c'est important le matin, en se levant, de se regarder puis de rire. De rire de nos travers, de nos lubies, de nos exagérations. Je pense que c'est libérateur puis ça permet de commencer la journée du bon pied plutôt que de se lever puis de commencer tout de suite à penser à des choses sérieuses, à son travail, à être tout de suite productif. Je pense que c'est bon de se relativiser un peu, puis ça peut peut-être faire en sorte que pour ceux, par exemple, qui vont au travail, puis qu'il y a du stress au travail, bien, d'être moins pris dans l'action ou dans le stress du travail, d'être un peu plus détaché.
Oui, et puis même si vous pouvez pas rire le matin, je dirais, si vous pouvez sourire, le matin, quand vous regardez dans le miroir, etc., là, de sourire et puis d'être authentique. Là, tu sais. Un sourire authentique, ça, c'est un bon indicateur qu'il y a quelque chose de bien qui se passe en ce moment. Donc, c'est bien. Puis, tu sais, rire, c'est important pour plusieurs raisons. Hein. Je vais juste rappeler un vieux proverbe, on dit qu'on ne l'emporte pas avec soi hein, quand on décède, quand le corps change et transitionne. Donc, c'est important de garder ça léger, de garder une provision dans la vie, dans la journée, dans ce qu'on fait, pour se demander parfois ou se rappeler de l'aspect illusoire de la vie. Parce que, tu sais, quand on regarde ça, c'est vraiment une illusion dans une grande mesure. On ne l'emporte pas avec soi, on fait toutes sortes de choses qui, vues de vol d'oiseaux, on pourrait voir un être humain qui passe d'un coin de rue à l'autre, d'un coin de rue à l'autre, puis toute sa vie, puis qui fait des petites choses, et puis qui déménage des trucs, et puis qui écrit des papiers, tout ça. Puis après ça, ça devient de la poussière, ça devient des choses qui est relatif à son corps, qui n'est plus là. Tu sais. Donc, il faut savoir cultiver, bien sûr, l'essentiel, l'éternel et l'être qu'on a souvent discuté dans d'autres émissions. Puis en même temps, faire une genre de distinction avec toute cette comédie humaine à laquelle on passe à travers.
Moi, quand je pense justement au fait de rire de soi-même et de son importance, parce que je trouve que... quand on rit pas de soi-même et qu'on est toujours trop sérieux, on dirait qu'on est emprisonné par notre propre concept de nous-mêmes, c'est-à-dire notre ego, etc. Et donc on se donne trop d'importance et on tue la spontanéité. Et un des exemples que je me rappelle, c'est étant plus jeune, surtout je pense vers quand j'ai commencé le secondaire au début, on dirait que j'étais comme une proie facile. Pendant une année, on riait beaucoup de moi. Et j'étais une proie facile aux autres parce que je prenais tout trop au sérieux. Et je prenais tout ce qu'ils disaient. Et donc, mentalement, pour moi, ça n'allait pas bien parce que je me sentais vraiment attaquée. Et c'était facile pour eux de faire ça parce que je les prenais au sérieux. Alors que quand on se prend pas au sérieux, quand j'ai commencé justement à moi-même rire quand je fais quelque chose que les gens trouvent qui est drôle, je ris moi-même de cette chose-là, et bien ça n'a plus, on dirait que ça n'a plus d'importance. Et donc surtout par rapport aux gens qui, aux enfants qui sont toujours à l'école, moi c'est ça qui m'a aidé à traverser justement cette année-là qui était vraiment une année difficile pour moi. Et c'est important justement. C'est pour ça que c'est justement important de ne pas se prendre trop au sérieux.
Puis si on rit de soi-même, quand les autres rient de nous, je pense que ça peut même les décourager. Parce
exactement.
Que quelqu'un ce qu'il cherchait à cette époque-là pour toi, c'était de te blesser, de te faire fâcher. Mais si tu n'es pas fâché, ces gens-là vont chercher nos victimes. Moi, j'avais le profil quand j'étais jeune de quelqu'un qui aurait pu se faire aussi rire de lui. Parce que j'étais très solitaire, j'étais toujours dans mon coin, mais en même temps, moi, je prêtais pas le flanc, j'étais comme neutre, je réagissais pas, donc j'ai jamais été vraiment... les gens n'ont pas rigolé de moi parce que finalement, je réagissais pas, donc j'étais pas une victime. Et ça a toujours joué en ma faveur. Par contre, c'est sûr qu'il faut que j'apprenne à être plus drôle, mais en même temps, je me prends pas au sérieux sur les choses les plus importantes. Moi, j'ai fait un rêve il y a quelques années où je faisais un accident d'auto, tout simplement. J'étais dans un auto avec quelqu'un et je me voyais, j'étais très, très... c'était un accident très grave. Je me voyais à l'hôpital, mais je flottais au-dessus de moi, puis j'étais en train de mourir, là, j'étais vraiment magané. Et puis, je suis mort. Et puis, je voyais tout le monde triste, etc. Mais moi, je ressentais juste un bonheur parfait, sublime. Et après ça, j'ai compris que ce rêve-là me disait que je ne m'identifie plus à ma personne. Donc, ma personne, si on rit de la personne qui s'appelle Nicolas, ben, ça ne va pas me blesser parce que je suis tellement d'autres personnes en même temps. J'ai tellement d'autres personnalités parallèles, de vie parallèle. Je suis pas schizophrène, là, mais je veux dire, j'ai conscience d'avoir des multiples vies parallèles. Et puis, donc, s'il y en a dans une de celles-ci, il m'arrive quelque chose, ben, je suis plus enclin à la regarder avec une certaine distance. Moi, ça m'aide à être plus en paix. Et en harmonie.
Mm-hmm. Ben, tu as mentionné quelque chose à propos de l'enfance. Ben, vous deux, vous l'avez fait. Et puis, il y a quelque chose à dire là-dessus parce que c'est sûr, on dit que les enfants sont très cruels quand ça arrive à ces choses-là et puis peuvent vraiment marquer ou faire un impact sur leurs copains, leurs camarades de classe et tout ça. Donc, c'est bon si quelqu'un est là pour les ramener à un bon endroit là-dessus. Il y a toujours dans cette époque, dans ce contexte-là, un qui veut, qui va vouloir, à cause que lui-même a peut-être un problème de son côté, pointer du doigt puis dire, comme on dit, ha ha, puis montrer que, ou le ridiculiser quelqu'un, etc., etc. Puis les enfants sont fragiles, hein. Donc, mais j'ai remarqué, autant que l'humour était, il me semble, différent puis plus abondant à une certaine époque de ma jeunesse où on dirait qu'on pouvait rire de n'importe quoi et puis il y avait plus d'humour sur toutes sortes de folies furieuses, de choses de la vie. On dirait que la vie a augmenté son volume de sérieux dans l'ensemble. On dirait que l'environnement, les politiques, les guerres, ces choses-là sont devenues, ont élevé leur ton et leur présence dans l'esprit des gens. L'économie, ces choses-là, qui fait en sorte que, on dirait, j'irais dire, il y a moins de raisons de rire qu'avant. Tu sais. Je ne sais pas à quel degré vous autres vous pensez que c'est vrai.
Moi, je pense que c'est une question d'âge. On a déjà eu une émission là-dessus, on avait parlé de la volonté du bonheur. Mm-hmm. Ça fait que c'est très facile d'être heureux quand on est jeune parce qu'on n'a pas de responsabilité. La vie est relativement simple, mais en plus on vieillit, à 20 ans, 30 ans, 40 ans, là, il y a des coups durs, des échecs, on se fait rejeter, on a peut-être des divorces, des maladies. Donc, être heureux n'est pas si facile plus on vieillit. Donc, c'est là que ça prend une volonté. Donc, ça prend une volonté, à mon avis, aussi pour savoir rire de soi, parce que c'est vrai qu'avec le temps, avec l'âge, ça devient de plus en plus difficile.
Et je pense que Robert, plutôt, il voulait aussi faire mention par rapport au... Est-ce qu'on pense que, disons, ce siècle-ci, on est beaucoup plus sérieux que par rapport à l'autre siècle, etc. Quand la vie était plus simple, qu'il y avait moins de moins je dirais pas moins de responsabilités, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup de responsabilités, qu'avant, on avait des responsabilités, mais j'imagine qu'on avait un petit peu moins de responsabilités parce que eh bien, la vie n'était pas aussi développée qu'aujourd'hui. Alors, je me dis, est-ce que les gens qui vivaient plus simplement il y a des années, est-ce qu'ils n'étaient pas plus heureux qu'aujourd'hui? Alors,
question c'est une ouverte, question hein, ouverte. Si certains de nos éditeurs ont la réponse, ben, on vous invite à nous la donner, c'est dans les commentaires.
Ben, c'est le principe que quand tu ne sais pas quelque chose existe, une condition, tu sais, tu ne sais pas qu'elle existe, donc elle n'est pas dans ton esprit. Aujourd'hui, avec l'Internet, on peut savoir que ce qui se passe à l'autre bout du monde, dans une grotte, et tu sais, instantanément. Donc, c'est comme on peut savoir tout, trop même. Des fois, ouais. Il y a information overload.
Parce qu'on sort à peine du Moyen-Âge. Le Moyen-Âge n'était pas très facile non plus. Là. Non. C'est vraiment, ça a droppé dans la noirceur. Donc, ouais. Est-ce que les gens étaient vraiment heureux? Peut-être une élite était... Certaines élites avaient la chance d'être plus heureux, mais la majorité de l'humanité vivait quand même dans la misère. Donc, je ne sais pas, c'est une question ouverte. On n'a pas de statistiques.
Non.
Et puis aussi, je ne sais pas si c'est juste moi, mais j'étais absent du Québec longtemps, je dois dire. Et puis, il y avait des humoristes que j'aimais bien à l'époque. Et quand je suis revenu, l'humour a changé. Et puis, qu'est-ce qui fait rire les gens? C'est pas quelque chose qui me fait rire maintenant. Alors, ça me prend... Je regarde les nouveaux comédiens et je les écoute et puis j'essaie de voir l'angle d'humour. Puis à un moment donné, l'angle d'humour, c'est juste peut-être juste leur méthode ou leur personnalité, mais pas nécessairement le contenu ou la manière que c'est livré. Et puis, quand j'écoute les vieux humoristes, je retrouve encore la vibration qui me faisait rire à l'époque. Alors, je sais pas c'est quoi.
Ça manque peut-être d'intelligence. J'ai eu des biais récemment pour aller voir un spectacle d'humour où tu avais plusieurs artistes connus, puis la salle s'esclaffait de rire, mais moi, je trouvais pas ça drôle. J'étais peut-être un des seuls à pas rire, mais c'était pas un humour intelligent. C'était vraiment du pipi, caca, crotte, sexe. Bon, on n'ira pas plus loin pour l'instant. On va aller une chanson une chanson des trois accords, c'est « Je me touche dans le parc ». Puis on revient après la pause avec ce thème « Savoir rire de soi ».
le parc. Les gens font toutes sortes de remarques avant que les policiers débarquent. Quand je verrai enfin l'ambulance se stationner dans la rue, je poursuivrai mes avances sur mon propre individu. Et dans la cabine arrière, je penserai à toi si fort. J'aurai le sourire en l'air. Je saurai alors que je m'en retourne à l'institut avec Alexandre. Je reste ici jusqu'à ce que l'on vienne me prendre. Je me touche dans le parc. Les gens font toutes sortes de remarques avant que les policiers ne débarquent. Quand je me touche dans le parc, les gens font toutes sortes de remarques avant que les policiers ne débarquent. Quand
retour à propos sur le bonheur. Notre thème aujourd'hui est « Savoir rire de soi ». Les gens aujourd'hui investissent beaucoup dans leur ego. C'est avec toutes les technologies qui amènent les téléphones avec des appareils photo. Les gens sont rendus d'une insignifiance à tout casser, là, qui vont photographier ce qu'ils mangent, photographier à tout vent. Et ça, c'est comme j'ai l'impression que c'est la maladie du capitalisme de l'Amérique du Nord. C'est un peu comme ça partout sur la Terre, mais moi, vivant ici, je peux le voir ici extrême à cause qu'on est à côté des États-Unis. C'est assez intense.
Ouais, la mode au selfie qu'ils appellent en anglais. Là.
Exact.
Selfie, tu sais, le selfie, ça s'appelle S-E-L-F-I-E. Mais en même temps, on pourrait faire une analogie avec un autre terme qui serait le selfie, qui serait le C-E-L-L, trait d'union F-E-E, le coup du cellulaire. Donc, un selfie. Et le selfie est vraiment, c'est comme tu dis, on est rendu maintenant avec le selfie stick et le selfie machin pour... pour faire en sorte qu'on prend la photo de soi-même dans le milieu de l'Afrique. Il y a des gens, on dirait qu'en ce moment, ils véhiculent leur vécu par Facebook et ces choses-là, dans le sens que toutes leurs activités sont basées, on dirait, sur la nécessité de communiquer ça. C'est comme, pour moi, ça me fait penser, es-tu présent dans ton expérience si tu es tellement préoccupé à prendre des photos de toi-même pour partager avec tout le monde? C'était pas là, ça, cette technologie-là, il y a 30 ans. Tu sais, le monde faisait des voyages, prenait des photos, les partageait après, tu sais, 3 mois plus tard, après là, ça fait développer, les placer en diapo à l'époque, quoi que ce soit. On faisait après ça un bouquin, un scrapbook plein de photos, tout ça. C'est peut-être l'ancienne mode depuis la numérisation.
Mais d'ailleurs, j'ai vu une photo qui était dans ce sens-là il y a quelque temps. C'était deux photos. C'était un spectacle dans les années 80. Tu avais tout le monde avec leur lighter.
Oui.
Puis aujourd'hui, tu avais tout le monde avec juste des cellulaires dans les airs qui étaient en train de filmer le spectacle, tu sais, au lieu de le regarder.
C'est ça. Les gens, je pense qu'ils payent un gros prix. Je sais pas s'ils réalisent ou ils sont simplement incapable d'être dans le moment présent. Je ne sais pas laquelle des deux. Peut-être c'est une combinaison des deux. Peut-être c'est variable dépendant le nombre de la quantité de drogue qu'ils ont décidé de consommer pour aller voir ces spectacles-là. Je fais des blagues, là, mais peut-être que non aussi.
Et les nouveaux médias sociaux qui plaisent vraiment aux jeunes, comme le Snapchat, sont tous basés là-dessus. C'est-à-dire que c'est, mm-hmm. C'est vraiment... Tu gardes ça pendant une journée, tu snaps, tu fais une photo, et puis ça se propage à tous tes amis, puis ça disparaît. Et c'est, je peux comprendre en même temps, il y a quelque chose de très fascinant là-dedans. C'est comme un esprit de communauté. On dirait qu'on se connecte tous ensemble. Mais c'est comme un arme à deux tranchants.
Je sais pas, être surexposé, pour utiliser un terme photographique, être surexposé à toutes sortes d'images que tout le monde, qu'à une certaine époque, je pourrais rien en foutre de ce que tout le monde a mangé pour luncher, puis qu'est-ce qu'ils font ce week-end, et puis tout ça, qui les images de chaque restaurant, puis de chaque sortie qu'ils font. Il n'y a pas rien de mal à partager notre vie, mais... Je sais pas, je suis pas certain que c'est sain comme chose, parce que je trouve que ça demande beaucoup de demandes d'attention à investir ailleurs que le moment présent comme tel. Donc, je suis pas certain que
ça va dans le sens contraire, même de l'enseignement des grands maîtres qui vont justement le selflessness.
Oui, c'est ça.
Que l'ego, la personne, fait partie de cette illusion, fait partie du rêve. Donc, elle est comme une coquille vide. Oui. Et si tu mises tout sur ça... Franchement, t'as rien compris. C'est ça le gros problème.
Ben moi, je suis totalement d'accord que c'est vraiment dommage parce qu'il y a des gens qui choisissent, surtout les gens qui partent en voyage et qui justement ont investi dans ce voyage. Alors, t'as deux personnes, deux genres de voyageurs. Le voyageur qui décide de voyager et d'avoir l'expérience réelle, live, genre. Et t'as le voyageur qui décide de vivre son voyage à travers... son cellulaire. Alors pour moi, si tu décides de voyager et de vivre l'expérience à travers ton cellulaire, bah t'as qu'à regarder sur YouTube des vidéos que des gens ont filmé de cette place-là. Ça fait... Quelle est la différence? Donc c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment dommage.
Je pense que c'est un symbole de l'isolement extrême que nous avons aujourd'hui dans le monde occidental. Je ne voudrais pas parler partout sur la planète, mais ici, c'est évident, les gens sont seuls. Et puis, je pense que l'Internet, le Facebook, ça vient pallier, mais il faut, à mon avis, il faut avoir un équilibre. Moi, je n'ai pas de cellulaire. Quand je sors de chez moi, je suis libre.
Mais tu ne sors pas de chez toi.
C'est vrai que je ne sors pas souvent chez moi. Mais quand je sors...
Le voyage intérieur.
Quand je sors, ben, je veux dire, j'ai rien qui va buzzer sur moi. Puis j'ai rien. Quand je vais au restaurant avec quelqu'un, j'ai pas ce cellulaire-là qui va sonner puis qui va interrompre des conversations. Moi, ça m'insulte quand les gens font ça. Et puis, ça fait souvent que je vais refuser. Je vais refuser de sortir, aller prendre un café avec quelqu'un, sachant qu'il va toujours avoir son cellulaire, qu'il va m'interrompre. Pourquoi? Pour un tweet sur Facebook. C'est ridicule.
Oui, parce que ça devient une interférence. Hein? Cette communication-là, cette interaction-là devient comme une interférence au moment présent. Tu peux pas mettre un frein sur le trafic aérien. Tu peux pas mettre un frein sur le trafic Internet. Et si tu t'ouvres à ça, tu ouvres une porte à un trafic qui peut arriver n'importe quand. Et pour une raison ou pour une autre, les gens croient ou il y a une valeur qui est associée, on dirait, avec la disponibilité. Puis la communication instantanée a une grande valeur. Laquelle? Je ne sais pas. Cette valeur-là se traduit en quoi? Je ne sais pas. Y a-t-il un bénéfice? Je ne le connais pas. Je n'ai pas d'idée quel est ce bénéfice. Quel avantage, quelle chose constructive que cela amène? I don't know.
Mais la valeur que notre société le voit, c'est que la communication instantanée, évidemment, elle nous aide à avancer plus rapidement. Ça, c'est un fait. Mais la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on avance rapidement, mais est-ce qu'on est productif ou est-ce qu'on avance rapidement dans la mauvaise direction? Donc, pour moi, c'est ça la question qui se pose.
Et puis, c'est quoi cette course de rapidité? Si on parle de ce sujet-là pour une petite seconde, la rapidité, vers quoi on s'en va? Une plus grosse maison, une plus grosse voiture, un plus gros compte en banque? Mais si tu arrives à des questions comme l'avancement de ta maîtrise de ta vie émotionnellement, par exemple, ou d'autres plans, y a-t-il vraiment des raccourcis que tu peux prendre? Y a-t-il vraiment une approche rapide que tu dois prendre? Je pense qu'on est dans une mer de gens qui ont de plus en plus de problèmes d'attention, qui ont de plus en plus d'incapacité de garder l'attention pour une durée déterminée. Ou lire des livres, c'est lire un livre, c'est devenu quelque chose de moins fréquent par rapport à écouter quelque chose ou voir quelque chose. Et je ne suis pas certain que c'est un signe de santé de la société.
Tu sais, moi, je n'encense pas nécessairement la communication. Je crois que la communion est quelque chose de très sage, mais la communication, est-ce qu'on communique vraiment présentement? Je ne crois pas. Les gens savent de moins en moins écrire. C'est vraiment de plus en plus nul. Les gens, éventuellement, ne sauront peut-être même plus lire. Et on dit, les gens ne disent pas grand-chose en général. Moi, quand j'ai des conversations, je suis souvent très ennuyé. Et puis, c'est ce qui fait que je reste la majorité du temps chez moi. Parce que quand je suis dans ma bulle, dans ma créativité, que je travaille sur mes projets, je suis très, très productif. Puis, je suis dans l'intelligence et la beauté. Et je peux contrôler mes... Tu voulais dire quelque chose?
Oui, ben justement, sur ce fait que les gens savent de moins en moins... Là, on dévient un petit peu du sujet, mais je veux revenir au point que tu as dit que les gens... savent de moins en moins lire. Et justement, les technologies, comme on a dit tout à l'heure, par exemple le cellulaire, ça n'aide plus. Parce qu'aujourd'hui, partout, on a des fonctions que, à travers ton cellulaire, bah, tu peux dire le message texte que tu veux écrire et le cellulaire va le faire pour toi.
Ouais.
Par exemple, les étudiants, moi, dans mon université, eh bien, il y a des profs qui écrivent avec des stylos spéciaux qui sont électroniques, qui sont connectés directement à un logiciel qui va prendre les notes pour toi et ils vont être envoyés par courriel, par exemple.
Automatiquement.
Alors, on a de moins en moins l'opportunité d'écrire. Et je me demande, dans 2-3 générations, est-ce qu'on va savoir écrire? Ou est-ce qu'on va retourner? Parce que ça nous a pris vraiment longtemps, si on regarde dans l'histoire, à avoir développé le langage, à commencer à écrire, et surtout bien écrire. Alors là, on est en train de revenir un petit peu en arrière.
On a souvent parlé de ça à l'émission, que ça, oui, ça va vite dans les technologies, mais en même temps, l'être humain... En tant qu'humain, émotionnellement, son intelligence n'a pas avancé. Je pense qu'on a eu une aide extérieure. Mm-hmm. Hein, on peut parler que ça viendrait des extraterrestres, mm-hmm. d'une autre forme d'existence qui est venue implanter sa technologie. L'être humain, le reverse engineering. En anglais, mais il l'a retravaillé, on s'en est utilisé, mais on n'a pas nécessairement la sagesse. Et puis, il y a un mythe qui revient toujours dans l'humanité, c'est Atlantis. Atlantis, c'est vraiment ça. Le mythe, c'est qu'il y avait une trop grosse technologie. Ils ont perdu le contrôle. Et puis, on court quand même. Si tu penses à les prochaines générations, moi, j'y pense souvent. C'est un peu incroyable de comprendre que les jeunes aujourd'hui, pour avoir leur attention, tu as 3 secondes. Si tu n'as pas réussi à les atteindre en 3 secondes, qu'est-ce que tu peux dire en 3 secondes d'intelligent? C'est là que c'est des trucs marketing, puis il faut dire quelque chose qui attire son attention.
Ou regarde l'édition. Je vais voir un film, je regarde l'édition, la manière que les images se succèdent, elles se succèdent trop rapidement. Je comprends rien du cheminement. Je fais juste voir des flashs, on dirait, mix-mac, mélanger un mishmash de quelque chose. Et je ne peux pas vraiment comprendre la logique de la manière que l'édition se fait, autre que peut-être juste pour essayer de garder mon attention qui est déjà dans une confusion. Alors, ils font des choses en ce moment qu'on dirait qu'ils s'adressent à un esprit qui n'est pas cohérent.
Bien, on va passer à une chanson de PZK qui s'appelle « Je suis beau ». Puis nous allons revenir après la pause avec ce thème « Savoir rire de soi ».
J'y crois pas comment j'suis beau. I'm pretty, le mec parfait, zéro défaut. I'm pretty, putain que j'suis beau. I'm pretty, I'm pretty. J'dédicace ce morceau au beau gosse que je suis. J'ai trop de sexe à pile quand j'me regarde, parfois je jouis. Sur mon Facebook, 52 000 photos de moi. Touchant le cœur, le regard droit. J'suis ni même pas plaire au gars. Tellement chaud qu'au supermarché, les portes automatiques s'ouvrent. J'suis une bête, pas trop tard, j'devrais avoir ma place au loup. Toutes les voitures me klaxonnent, même en meuf, j'suis sûr que j'suis bonne. Y'a peut-être un truc qui déconne, mais franchement, j'ai pas trouvé. J'suis beau. J'y crois pas comment j'suis beau. Le mec parfait, zéro. Je sais que tu veux.
balle sur le bras, mes parents veulent que je leur tire. Je prends ma douche en slow motion, même si je perds un temps pas possible. Grâce à mon ex faux brosse Garnier, j'ai la police comme Starsky.
Grâce à ça j'ai la police. Grâce à ça j'ai la police.
Yeah, mon ego, je le vaux. Bien parce que je suis le plus beau. Muscu, art officier. Mon cul, je l'ai mérité. Les autres mecs ne font pas de quoi. Je les laisse dans un sale état. Y'a un fossé entre moi et Michael Vendetta.
Je suis beau. J'y crois pas comment je suis beau. Le mec parfait, zéro défaut.
Je mange pas gras, regarde le résultat. J'ai même pas besoin d'être grand pour faire du mannequinat. À cause de moi, tous les mecs se sentent mal dans leur peau. Tous les filles que je croise explosent leur libido. J'suis trop beau pour être vrai. Trop craquant et parfait, les yeux du sage peuvent se refiler. Car c'est moi que tu vas désormais.
J'suis beau, j'y crois pas comment j'suis beau. Le mec parfait, zéro défaut.
Retour à propos sur le bonheur. Notre thème aujourd'hui est « Savoir rire de soi ». L'avantage quand on sait rire de soi, c'est qu'on n'a pas à pardonner les autres parce qu'ils ne peuvent pas nous insulter, ils ne peuvent pas nous faire souffrir. Donc, ça met près de 3000 ans d'histoire à terre. Le pardon n'est plus nécessaire. Et c'est tellement plus facile. Les gens vont venir et ils vont juste passer. Ils ne laissent pas de marque sur nous. Beaucoup de gens dans notre société ils souffrent parce qu'ils ont été blessés quand ils étaient jeunes, il s'est passé des choses, mais s'ils savaient rire d'eux, prendre ça un peu plus relax, c'est vrai que des fois ça peut être des expériences fortes et difficiles, mais c'est pas une raison pour ne pas prendre une distance, parce que sinon ça reste avec nous, et c'est nous qu'on... Le cancer vient souvent de quelqu'un qui ne s'aime pas lui-même. Et
c'est intéressant que tu parles de ça. Et puis, tu as dit beaucoup de choses qui m'amènent à dire beaucoup de parler de différents aspects. Le cancer, j'ai entendu parler, il y a une histoire qui a été documentée au fait qu'un homme s'est guéri du cancer seulement continuellement en regardant des films humoristiques. Continuellement. Tellement que la théorie qui a été invoquée, c'était que son attention s'est éloignée de la maladie et puis s'en allait au rire, qu'il a démagnétisé cette maladie qui lui rongeait. Et puis, la comédie constante l'a amené à se guérir lui-même, en passant. Mais ce que tu viens de dire tantôt, c'est plus important encore parce que ça ramène encore aux émotions et ce manque de maîtrise, parce qu'on ne donne pas un... Nos parents et puis les générations d'avant, on n'a pas eu un livre. Les gens dans l'ensemble ne reçoivent pas un livre d'instruction pour savoir comment opérer la vie. Et les émotions, ce facteur-là, n'a pas eu vraiment d'évolution substantielle. On parlait encore tantôt des technologies. Les technologies, on est rendu presque au-dessus de la pyramide. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus avec les technologies? On peut les rendre plus petites, on va les rendre en microchip, on va nous les insérer dans le bras, dans la tête, dans le cerveau, dans l'œil, quoi. Les technologies vont devenir de plus en plus petites, plus puissantes, mais c'est pas une sagesse, ça, c'est pas une maîtrise émotionnelle. Et puis je pense qu'il y a un appareil qui se veut s'occuper de ça puis gérer ça, un peu comme les Borg dans la série Star Trek, là, où la résistance sera futile et puis il faudra tout simplement coopérer puis abandonner puis se laisser faire. Donc moi je dis non à ça et je suis plutôt pour partisan d'une pratique de maîtrise de notre propre émotion en ayant une nouvelle approche et une nouvelle science peut-être, ou approcher les sciences qui gèrent les champs électromagnétiques et le cœur et les autres mécanismes du corps humain et leur signature magnétique, et de reconnaître que les émotions ont une qualité électromagnétique et de savoir comment travailler avec ça pour pouvoir arriver à maîtriser nos émotions dans les situations les plus mondaines, parce que c'est pas dans des situations de laboratoire qu'on doit être vainqueur et contrôler nos émotions. Contrôler et non pas, je veux dire, ne pas les vivre, ne pas les supprimer, mais les contrôler. C'est dans le quotidien de tous les jours. C'est dans le trafic, c'est à l'ouvrage, c'est avec le boss irritant, c'est avec toutes ces choses-là qu'on doit s'amener à une maturité qu'on n'a pas encore.
Ben justement, ce concept de s'auto-guérir en riant a été prouvé maintes et maintes fois, parce qu'on sait aujourd'hui que quand on rit, non seulement on augmente le niveau d'oxygène dans le corps et surtout au cerveau, donc ce qui nous aide à relaxer, parce que justement quand on rit, notre respiration elle augmente. Alors c'est vraiment tout un changement physiologique qui se passe à l'intérieur. Mais surtout que quand on rit, on est en train de travailler tous les muscles du visage et au cou, justement. Et ça aide les gens à avoir plus de vitalité. On vieillit moins vite quand on rit. Il faut penser que notre corps, c'est tout un... Il y a toute une usine qui travaille en dedans. Et si on aide cette usine à relaxer, à déstresser, justement, en ayant des moments de rire, des moments spontanés comme ça... Eh bien, ça va juste nous aider à fonctionner beaucoup, beaucoup mieux que si on était tout le temps sérieux. Et l'autre chose que je voulais mentionner, justement, c'est le fait, par exemple, moi, je fais partie d'un groupe Toastmasters, qui sont des clubs où on se pratique à parler en public. Et à chaque fois qu'on essaie de faire des discours, justement, qui sont inspirants, qu'on veut inspirer les gens, qu'on veut les influencer... On est obligé on est fortement conseillé de mettre de l'humour là-dedans. Pourquoi ? Parce que l'humour, ça fait un break dans le discours, ça fait une petite pause, ça donne le temps aux gens de relaxer pendant quelques secondes, et boum, le cerveau, il reprend, et on reprend l'attention des gens, et on délivre le message plus facilement comme ça, et on attire l'attention plus facilement comme ça. Donc,
Et c'est démontré aussi que les femmes sont très réceptives aux hommes qui les font rire. Mm-hmm. On voit des femmes, des fois, avec des hommes qui sont pas très beaux, mais qui ont un sens de l'humour incroyable. Donc, je pense que ça ouvre beaucoup de portes. Faire rire, faire sourire les gens, ça aide à réussir dans la vie, à être quelqu'un de plus apprécié aussi. Parce que quelqu'un qui est toujours malheureux, c'est donc lourd. Quelqu'un qui est toujours déprimé, mm-hmm. puis... Moi, j'ai pas tendance à trouver ça facile d'avoir toujours quelqu'un qui est déprimé. Tu peux l'aider une fois ou deux, lui donner des conseils, mais si c'est toujours constant, à un moment donné, je suis pas capable. Moi, j'enlève cette personne de ma vie. Et puis, au contraire, quelqu'un qui est heureux, ben, il nous donne le goût d'être avec lui. Donc, je pense que c'est que si on développe ça, on a une vie plus riche. Mmh. Beaucoup plus riche.
Puis ça ne demande pas d'être un comédien professionnel là, hein, dans notre vie. Là. Ça demande juste des fois de souligner un aspect comique ou léger de la vie, puis de le faire à intervalles réguliers ou le plus souvent possible. Ça amène une légèreté, là. Ça amène à élever ou enlever le poids de la vie qui peut être des fois plus sérieux et plus lourd. Ouais.
Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, je faisais beaucoup de bandes dessinées, puis j'avais tendance à me faire, puis je me faisais dans ma maison, avec ma famille, c'était des modèles graphiques que j'utilisais, donc j'ai beaucoup ri de moi dans mon enfance, dans mes bandes dessinées, et ma famille, des fois mon père trouvait ça pas si drôle là, que je le fasse en bobette, puis en caleçon, puis, mais tu sais, je pense qu'il faut, si on veut rire des autres, ben, il faut rire de soi en premier, parce que sinon on va mal rire d'eux, ça, on va les blesser. Mais si on est capable de rire de soi, je pense que c'est beaucoup plus facile de faire des blagues sur les autres.
Je suis d'accord, je suis d'accord. Donc, c'est ça, la morale de cette histoire, c'est de pouvoir trouver le côté comique, le côté léger de la vie. Et si vous n'êtes pas capable de faire ça, moi, je dirais, essayez de ramener ça au moment présent, essayez d'arrêter le temps, essayez d'arrêter la pensée, essayez de respirer le moment présent, vraiment de le regarder, de le vivre, de l'écouter, de l'entendre, de le voir. Puis vous allez trouver peut-être quelque chose de plus léger et de plus beau.
Moi, ce que j'ai remarqué aussi, c'est quelqu'un qui a une vision. Comme moi, j'ai une grande vision. Je vois ce que j'ai à faire dans cette vie. J'ai des grands projets. Je ne suis pas disponible pour les colibets, pour les sarcasmes, ces choses-là. Ça ne m'atteint pas parce que j'ai comme une voix. J'ai écrit beaucoup dans ma vie. J'ai publié beaucoup. Donc, ma personnalité est assez forte pour que même si quelqu'un veut me faire tomber... Je suis assez solide pour ne pas avoir à porter l'oreille, puis j'ai autre chose à faire. Donc, avoir une grande vision ou être préoccupé par un projet de vie important, je pense que ça peut aider aussi à se prendre moins au sérieux ou à prendre moins au sérieux ce que les autres pensent, tout au moins. Ce que les autres pensent, c'est pas si important parce que ça change souvent et c'est souvent basé sur des préjugés au lieu de des vrais insights.
Ben moi, je voulais juste mentionner en fait que je pense que j'en avais parlé l'autre fois. Ma mère, elle vit pas ici, elle vit au Maroc et on ne s'est pas vu depuis plusieurs mois, je pense 10 mois maintenant. Donc il y a quand même ce vide qui se crée. On manque des expériences, chacun vit de son côté. Et quand elle est venue vers les premières semaines, il y a eu un moment qui était vraiment marquant pour moi et qui est vraiment ancré dans ma mémoire. Où le matin, quand on s'est réveillé, j'ai été de mauvaise humeur, j'ai remarqué, et j'ai un petit peu fait le clown, comme on a dit tantôt. Alors, elle a vraiment ri, mais elle a ri de son cœur, et moi, je l'ai entendu, je l'ai senti, et en plus, elle a fait un commentaire, elle a dit, ça fait très longtemps que j'ai pas ri comme ça, j'attends ce moment depuis un an. Alors, pour moi, ce commentaire avait tellement de valeur, Je ne l'ai pas fait en espérant qu'elle va dire ça en retour. Moi, je l'ai juste fait comme ça, spontanément. Et je trouve que ce moment-là, pour moi, c'était un moment précieux. Donc, c'est ça. Je voulais le partager.
Ça m'est souvent arrivé aussi dans ma famille parce que, je ne sais pas, on se connaît depuis toujours. On peut partager des expériences. On peut se souvenir de quand...
Oui.
Quand mes sœurs avaient pété dans ma chambre juste pour me punir, tu sais, puis je m'en étais pas rendu compte. Puis après, on peut en reparler, puis il y a comme un détachement. C'est plus difficile de faire ça avec des gens qu'on vient de rencontrer. Mm-hmm. On les connaît moins. Mm-hmm. Il y en a qui sont bons pour faire des blagues comme ça rapides, là, mais mm-hmm. moi, je suis peut-être un peu moins confortable. Je suis quelqu'un de très sérieux, de nature très sérieuse. Mm-hmm. Donc... Si on peut me donner des trucs pour être plus humoristique, je vais les prendre.
Mmh. Ouais, ça évoque des souvenirs. Avec ma sœur, des fois, il y avait des tournures de phrases qui tombaient dans un accent anglais qu'on prenait des fois puis qu'on étirait. Puis on commençait tous à parler comme ça. Puis continuer à parler notre conversation d'une manière qu'on faisait un petit peu d'humour pour... qui est une manière comique de souligner en même temps notre aspect de notre culture parce qu'on est dans une... Je me considère dans une culture à multilangage ici au Canada. Donc, des moments humoristiques avec grande joie. C'est toujours bon de retrouver ça.
Eh bien, c'est déjà tout pour aujourd'hui. Je voudrais remercier le mouvement Jovialiste ainsi que Radio Centre-Ville pour nous appuyer dans ce projet. Puis, on va vous laisser avec une chanson de Marc Dupré qui s'appelle « Nous sommes les mêmes ». Et je vous souhaite bonne semaine à tous.
Bonne semaine et bon week-end.
Bonne semaine, bon week-end. N'oubliez pas de rire.
Retrouvez-nous sur propossurlebonheur.com.
C'est le regard qui nous dit tout, qui rend plus fort ou bien plus doux. C'est le pouvoir de se dire nous, même si parfois on se rend fou. C'est une main sur le bord.